Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui rocks du lolcat. Avec Thio qui...
Bonjour.
Ben voilà, ça fait plaisir de te revoir, tu étais longuement absent.
C'est que je suis très très occupé.
Tu es très occupé, oui.
Un emploi du temps de ministre, la fin dans le monde, tout ça quoi. C'est...
Mmh. Et encore un podcast un peu particulier car on va faire beaucoup... Cette quinzaine, on va faire de l'easy reading et on va enchaîner sur une interview de Damien et Loïc, qui travaillent sur l'organisation du festival Game and, Geek and Music, qui a lieu le 29 mai à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. On va pouvoir démarrer direct avec notre Easy Reading.
Vas-y, j'ai deux tomes dans la main, faut que tu en choisisses un.
Alors, j'ai choisi un, on va dire Death Note. Death Note, tome 3 et 4.
Tome 3 et 4, donc de Death Note. Quelle nouveauté dans ce tome-là ? On peut donc toujours spoiler, il n'y a pas de souci, tu ne nous fais pas une...
Bah, tu peux spoiler, mais pas sur les tomes 3 et 4, on va dire, pour les gens qui découvrent. On peut parler des précédents, on va dire.
Bon, donc en fait, un dieu de la mort s'est amusé, on va dire, à laisser un Death Note, qui est donc un livre qui permet de tuer les gens. Tombé sur terre et qui a vu donc ce qu'un humain peut en faire et donc il le suit dans ses pérégrinations. Donc celui-ci a décidé d'être une sorte de justicier, de tuer tous les coupables dans le monde entier, ce qui forcément commence à alerter un petit peu les forces de l'ordre étant donné que tous les plus grands criminels du monde meurent d'une crise cardiaque presque tous en quelques mois. Donc forcément ils se disent qu'Interpol se dit qu'il faut peut-être quand même qu'on enquête.
Et ils font agir leur super détective de la mort, qui
elle.
S'appelle... Elle, voilà.
Elle.
Dont on ne sait pas grand-chose, même si on l'apprend au fur et à mesure.
Si, il a fait ses études en Angleterre. Il y a vécu 5 ans et il a appris à jouer au tennis là-bas.
Oui, car c'est un super tennisman.
Oui.
Il y a quelques trucs dans ce tome, justement.
Ah ben là, tu reviens un peu dans du
coup,
manga, quoi.
Le coup des gars qui font du tennis, comme dans Olive et Tom, je veux dire...
Non, Olive et Tom, c'est du foot.
Ouais, enfin bon, ils arrivent à tordre la balle de tennis. Alors, Olive et Tom, le ballon de foot, je comprends, mais...
Ouais, mais là, la balle se déforme. Enfin, bon, c'est fou. Il frappe tellement fort. C'est Jeanne et Serge, quoi.
Ouais. Les gars, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils sont enquêteurs tellement ils sont balèzes.
Ouais, c'est ça.
Ils auraient pu bosser jusqu'à la trentaine, tu vois, genre être sportif de haut niveau. Et puis après, ils deviennent enquêteurs.
Bon. Et donc, on va dire sans révéler trop de choses, juste c'est que donc, le super enquêteur, elle, commence à soupçonner, on va dire... celui qui se fait appeler Kira, donc qui a le Death Note, il commence à le soupçonner et donc il l'approche de plus en plus.
Voilà. Et il soupçonne en parallèle le vrai. Il a des soupçons sur le.
Sur en fait, le, c'est que tu vois, du coup, j'ai dit, j'ai dit le nom que prend en fait le tueur, Kira, pour justement pas révéler qui était le meurtrier. Tu vois.
Mais ça, on le sait dès le début.
Ah ouais, mais attends, quand même, ça laisse. Je laisse planer le suspense.
Attends, c'est comme Columbo, je veux dire. Toi, tu regardes Columbo. Toi, à la fin de l'épisode de Columbo, tu fais oh putain, c'était lui l'enculé.
Quoi? Parce que Columbo, il passe tout l'épisode à discuter avec une seule personne. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le meurtrier?
Toi, tu te dis non, il essaie de nous bluffer, c'est ça?
Exactement.
T'arrives après le générique, en fait.
Bon, donc, c'est le fils, en fait, d'un enquêteur de la police qui est lui aussi sur l'affaire, qui est, en fait, le Kira, le meurtrier. Et donc. Le L en question va le soupçonner et va commencer à s'approcher de plus en plus de lui, à essayer de discuter avec lui pour justement voir si ses soupçons sont fondés ou pas. Même si ses soupçons d'ailleurs ne représentent que quelques pourcents. Parce
oui,
que c'est ça. Quelqu'un qui est très pragmatique. Hein. Je veux dire, lui, il fait je crois que là, les soupçons sont à 1 ou 2% sur toi.
Oh, ils viennent de passer à 4.
Ils viennent de passer à 4. Tu portes des chaussures vertes.
Voilà, et donc que penses-tu de cette série donc, qui a quand même eu un gros succès hein. Là, on revient à un truc, c'est assez vieux maintenant, Death Note, je dirais.
Ouais. Mais écoute, c'est bien. Moi, je le lis franchement facilement. Bon, c'est un peu long à lire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est le manga qui doit être le plus long à lire du monde, quoi. Enfin, ça vaut un 20th Century Boys ou.
Oui.
C'est, au niveau de vitesse de lecture, c'est super lent. Là, le tome. Là, donc,
bon, après,
là,
c'est des tomes doubles. Hein.
Ouais, mais même le double tome, il m'a fallu. Presque une heure pour le lire, quoi. Mmh. Bien une heure, quoi.
Oui, alors que le manga, en général, ça se dévore.
Tu tournes les pages, quoi.
Voilà. Eh ben, moi, je trouve ça sympathique, même si c'est vraiment du « je pense qu'il pense que je pense qu'il pense que je pense que peut-être il l'est ».
C'est exact.
C'est que des théories comme ça, non-stop.
Oui, oui, mais même eux le notent.
Oui, oui.
Il y a un moment, donc, justement, Kira dit « oui, mais si je pense, en fait, que tu penses et que tu… » Voilà. Et là, il dit « oui, mais en fait, on va pas s'en sortir, quoi ». Voilà. Mais ils le disent, ils sont honnêtes là-dessus. Ils disent que de toute façon, ils n'arrêtent pas de tourner en rond.
Non, mais ils n'arrêtent pas. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de faire réagir l'adversaire de l'enquête en faisant circuler des informations.
En fait,
ça, c'est bien amené.
Qu'il commette une erreur, quoi.
Voilà. Mais de faire réagir en envoyant des informations, je trouve que c'est bien mené. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de prise de tête, de cerveau. Et je me demande. Alors, on m'a dit qu'ils avaient réussi à le faire, mais. C'est un dessin animé qui a bien marché.
Ah,
tu
oui.
Imagines en dessin animé ça ?
Non, non, alors ce matin, bon, parce que du coup, en finissant de le lire, enfin, voilà, je vous le dis, on est en l'après-midi, hein, ce matin, je me suis réveillé, j'avais du temps, j'ai fini de le lire. Quoi ? Il n'y a rien de personnel là-dedans. J'ai fini de le lire et en même temps, j'ai regardé des AMV en fait, animé, musique, vidéo, donc des gens qui ont récupéré les images de l'animé, qui ont mis bon, chacun leur musique, bon, ils faisaient des trucs un peu. Mais l'animé. Et graphiquement, on ressemble énormément au manga. Et moi, disons, graphiquement, j'ai trouvé ça très agréable.
Non, scénaristiquement, qu'est-ce qui se passe dans un épisode ?
Ils ont intérêt à faire plus court.
Voilà, parce que, attends, les gars, c'est que de la voix off non-stop, c'est pas.
Ce que j'ai vu, je crois que l'animé, en fait. Alors après, je crois que t'as des épisodes, mais t'as une vidéo qui fait 2 heures. Hein.
Ouais.
T'as un film qui fait 2 heures, donc.
Bon, je sais pas. Bon, je trouve ça très intéressant. En plus, il y a un peu de progression. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent. Dont la jeune fille qu'on a sur la couverture du tome 4. Hein.
Ouais.
Voilà. On apprend de plus en plus comment fonctionne le Death Note, même si j'ai un peu l'impression que... pareil, c'est le truc qu'on te dit, ça marche comme ça. Ah non, mais en fait, j'ai oublié de te dire. Hein.
Ah, c'est le truc à la Yu-Gi-Oh! En fait.
Ouais, à la Yu-Gi-Oh! Oh, putain, non, mais. Je suis pas un stit, moi, Yu-Gi-Oh! Je suis désolé.
Non, mais je veux dire, comme dans le dessin animé, je veux dire, d'un coup, tu sors la carte, tu fais oui, mais en fait, tu la sors avec telle carte, et en faisant dans le sens du pied droit, d'un coup, en fait, il devient indestructible pendant 3 tours. En fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça le problème du Death Note, c'est qu'au fur et à mesure, il te rajoute des règles. Et ce qui est drôle, c'est que même les dieux de la mort ne connaissent pas toutes les règles sur les Death Note.
Oui, donc
ça, c'est assez énorme.
Ok. Donc Death Note de Tsugumi Oba au scénario et Takeshi Obata au dessin. Ça doit coûter dans les 5-6 euros, j'imagine, le tome individuel. C'est à 9 euros si vous achetez en tome double chez France Loisirs. Je leur fais pas de pub, mais c'est là que je l'ai acheté. Nous passons maintenant à plutôt tome 3, dont nous avions déjà beaucoup aimé les deux premiers tomes.
Donc 2. Naoki Urasawa et de
Osamu Tezuka. Enfin, si. L'esprit d'Osamu Tezuka.
Oui, mais l'esprit est très présent.
Oui, très présent.
Donc, pour rappeler l'histoire, en fait, c'est donc des meurtres de robots un peu partout dans le monde. Un inspecteur d'Interpol, qui est un robot aussi, donc va enquêter sur ces meurtres. Et donc, dans ce tome 3, donc, on va d'une part rencontrer Astro.
Oui, qui était déjà à partir du tome 2, un peu plus présent.
À partir du tome 2, voilà. Et donc là, ensuite, on a aussi sa sœur qui vient désormais. Et on va donc commencer, on va dire, à... Je dirais que la théorie du complot commence à s'affiner et on commence à avoir un peu plus d'informations sur le meurtrier des fameux 7 robots qui sont les plus puissants du monde.
Et puis, quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que... Bon... On a surtout que c'est des pistes, hein, c'est très sommaire sur le meurtrier.
Là, la fin, il est là, quoi.
Il est là. Moi, je dirais que moi, ce qui m'a surtout intéressé,
regarde, il a des dents pointues.
Ah oui, on voit qu'il a des dents pointues.
Dents pointues et l'eau glisse sur lui, ça veut dire qu'il est imperméable.
Ouais. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans celui-là, c'est la découverte d'une sorte de Ku Klux Klan anti-robot. C'est vachement dur à dire quand t'as bouche pâteuse.
Oui, c'est le KKR, je crois.
Ouais, le KKR. J'ai trouvé que c'était assez intéressant d'avoir ces sortes de méchants. Et comme d'habitude, en plus, le personnage qu'ils utilisent pour nous présenter cet organisme est un personnage complexe qui n'est pas un bête méchant, je trouve. On reste dans des personnages qui sont un petit peu fins.
Ouais, donc c'est pas le bourrin de base, on va dire... fanatique, sectaire, quoi. Voilà. Voilà. Donc, il a, il a, il a un lourd passé qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il est sans doute rentré là-dedans. Encore plus avec les événements qu'on va apprendre, mais surtout c'est tu sens bien qu'il est pas dans l'extrémisme, il se pose beaucoup de questions. Je dirais c'est vrai.
Voilà, non, un personnage intéressant à ce niveau-là. Ils ont encore bien fait les choses. Enfin voilà, ça reste captivant, ça reste bien dessiné, ça reste qu'on a envie d'en apprendre plus. Vraiment.
Tout à fait.
Voilà, donc Plutôt de Naoki Urasawa et Osamu Tezuka, c'est chez Big Kana et ça coûte encore un code prix, ça doit être dans les 9,50€, je pense. Alors nous enchaînons avec le triptyque du renouveau de l'univers Ultimate qui vient de tomber par terre.
Non, c'est Iron Man qui s'est cassé la gueule.
Voilà. Alors, nous avons déjà dit tout le bien que nous pensons d'Ultimatum. Je résume vite fait l'Ultimatum. En gros, Magneto pas content, tout cassé.
Enfin, tout le bien que tu penses de l'Ultimatum.
Oui, oui.
Donc, rappelle-toi que j'étais plus mitigé que toi.
Non, mais rappelle-toi qu'on était... Oui, bon. Donc, Magneto tout cassé, pas content. Cataclysme sur New York. Les super-héros qui en prennent plein la tête.
Et les là, quatre fantastiques...
Oui, l'équipe complètement dissolue.
C'est parti en sucette.
Et donc là, on a le censé... Après Ultimatum qui revient, avec trois tomes, on a un Ultimate Sorcery qui nous parle d'Iron Man. Mm. Le nouveau Ultimate Spider-Man, qui en fait continue comme si rien ne s'était arrêté. Et le Ultimate Avenger, et on va dire tout ce qu'on en pense. Nous pouvons démarrer par le... on va faire par chronologie des sorties, le Ultimate Sorcery Iron Man.
Donc le pitch, toujours après... Après Ultimatum, donc New York est à peu près sous les eaux. Tony Stark est en train de compter le peu de millions de dollars qui lui reste.
Le pauvre.
Et donc, on en reste, on va dire, à ça. Et arrive une nouvelle campagne de jeu pour Tony Stark. Voilà. Donc, qui est soi-disant une meurtrière voleuse. Ils vont faire copain-copain à la manière de Tony Stark, comme quand il rencontre une femme. Et puis, on va dire, des données de Stark Technology qui ont été volées et qui ont été transformées pour faire des robots policiers. Là.
Voilà. On est dans la guerre des armures. Hein. C'est la réécriture de la guerre des armures, qui est une saga classique d'Iron Man. J'avoue, je ne l'ai pas lu, même si c'est une saga classique. Qui a inspiré, d'ailleurs, Iron Man 2, le film. Étrangement, d'ailleurs, ce comic se sort à peu près en même temps que le film.
Ah bon.
Et c'est donc scénarisé par Warren Ellis, dont on n'avait pas parlé depuis au moins deux émissions, ce qui est un miracle, et dessiné par Steve Kurtz, que je ne sais plus ce qu'il a fait avant. On a super préparé aujourd'hui. Qu'en as-tu pensé ?
Ça ne m'a pas transcendé, ça n'a pas fait avancer le schmilblick, Iron Man, ouais, voilà. On va dire, voilà, les petites aventures de Tony Stark. En reste, on va dire, égal à soi-même. Sur la fin, on se refait un petit coup d'histoire de famille.
Ouais.
Mais rien... Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Surtout, j'ai rien trouvé d'exceptionnel qui s'y passe.
Disons que les retournements de situation sont un peu convenus. On les voit venir un peu à 15 km. Au niveau du dessin, c'est correct. Il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça très sympathique. C'est pas exceptionnel. Mais pour du Warren Ellis, c'est un peu light, quoi. En général, Warren Ellis, surtout quand il est sur des séries technologiques, amène toujours des idées de fou furieux avec de la nanotechnologie qui fait des trucs bizarres, machin chose.
Le seul truc intéressant, c'est... C'est la tête dans la boîte.
Oui, oui, oui.
C'est le seul truc intéressant de l'histoire.
Voilà, c'est le final qui apporte quelque chose qui pourrait être... très intéressant pour la suite, mais voilà, c'est une ouverture, c'est-à-dire que ouais, ça peut amener une histoire super trop bien, mais elle est pas dans ce tome-là, quoi.
Voilà, ouais, donc ouais, c'est super discret comme ouverture, hein. Je veux dire, il l'a fait en sous-marin, il a pas trop voulu en montrer quand même. Hein.
Voilà, donc bon, un petit peu décevant, enfin voilà, ça rentre très bien dans notre rubrique Easy Reading, d'ailleurs, le plus tôt, je sais même pas pourquoi on l'y a mis, peut-être parce qu'on est un peu à l'arrache aujourd'hui.
Faut pas le dire en théorie.
Ouais, faut pas le dire, mais c'est
ça,
pas
en théorie, je le dis pas. Tu fais non, on était super bien préparés aujourd'hui.
Et nous enchaînons de suite avec Ultimate Spider-Man.
Donc on reste toujours dans l'univers Ultimatum. Spider-Man est un petit héros que tout le monde aime finalement, qui a sa petite vie d'étudiant, qui se retrouve obligé de travailler dans un burger. D'ailleurs, c'est quoi Burger Frog. Il a une belle tête de grenouille.
Oui, parce que il était quoi le c'était le webmaster au Daily Bugle qui a un peu grillé le Daily Bugle.
C'est ça, il n'y a plus de Daily Bugle, ouais. À cause de. Comment il s'appelle déjà?
Magnétoscope?
Non, Jameson.
Jenna
Jenna
Jameson.
Jameson, ça. Donc voilà, donc de nouveaux justiciers donc apparaissent dans la ville. Spider-Man continue sa petite vie tranquille.
Un petit peu différente quand même, parce que bon, en dehors de ces histoires d'amour qui vont et viennent, enfin c'est un ado quoi, hein, donc il est avec un tel et il l'aime, mais en fait il y a son ex qui l'aime lui, mais c'est super compliqué. Enfin bon, c'est du super classique. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que bah, on a un Spider-Man que les flics aiment bien, que la foule aime bien, suite à la fin d'Ultimatum. Ultimatum a vraiment amené quelque chose sur le super-héros, je trouve, pour Spider-Man.
Mais c'est le seul qui est resté, on va dire, actif dans New York à l'époque aussi.
Oui, mais il
Enfin, c'est
est.
ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il est bien vu. C'est parce que tout le monde a vu les images où il a sauvé le monde, où il a sauvé des gens. Et justement, c'est ce que ça fait Jonah Jameson dans son dernier truc, où il
Voilà,
fait
où il fait un superbe article.
superbe article en montrant toutes les vraies photos, en voyant qu'il sauve des gens. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on l'aime, quoi.
Voilà, mais disons que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce Spider-Man populaire. Et je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'amener quelque chose. Même si, après, dans sa vie de tous les jours. Nouvelle copine, il y a Johnny Storm qui débarque, on sait pas trop pourquoi.
Il y a Kitty qui est dans son école.
Kitty Pride qui est dans les X-Men. On sait pas trop ce que sont devenus les X-Men d'ailleurs. Hein. On l'apprendra peut-être dans le futur Ultimate X-Men tout neuf. Donc, c'est toujours scénarisé par Brian Michael Bendis. Ce qui fait qu'il y a vraiment une. Enfin, c'est une série qui a une continuité terrible. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir suivi à sa sortie, au départ. C'est dessiné par David Lafouente. Que je trouve vachement bien en fait. Il a un style un peu cartoony. Il fait une tête super ronde à son Spider-Man qui est assez bizarre.
Surtout c'est qu'il lui fait des yeux de la taille de.
Ouais,
Enfin, qui font les trois quarts du visage, quoi.
voilà, ça aurait pu être Flyman, l'homme mouche. Et les dessins sont assez classe, je trouve, en fin de compte. C'est un peu plus jeune, mais ça colle bien à l'histoire qui, en fin de compte, reste une histoire assez ado. Voilà, pour moi, c'est du Spider-Man vraiment tout public. C'est pas sombre, c'est pas. Il y a quelque chose de vraiment intéressant.
Mais pour autant, il n'est pas. Il est tout public, mais il y a quand même de l'intérêt dans le scénar, quoi. Là,
Oui,
on
oui.
a un nouveau méchant qui arrive, le caïd qui disparaît.
Une équipe d'une jeune fille et de sa mère avec des
Ouais.
pouvoirs qui font des crimes et qui ont une relation assez intéressante. Enfin, c'est assez riche, au niveau des événements. Même si, pareil, ces deux premiers tomes restent beaucoup de l'ouverture sur ce qui va se passer plus tard. Ces deux premiers volumes dedans. Donc c'est chez Panini Comics et ça coûte
4
4 euros.
euros.
Et nous finissons par Ultimate Avengers, scénarisé par Mark Millar, dont on a déjà parlé il y a peu grâce à Kick-Ass, qui était le premier scénariste à la base des Ultimates. Et c'est dessiné par Carlos Pacheco, que j'aime vachement bien. Donc Mathieu, as-tu fini de mourir? Veux-tu nous raconter le pitch?
J'essaye. Donc, pour la troisième fois aujourd'hui, nous sommes toujours après les événements d'Ultimatum.
D'Ultimatum.
Donc, Nick Fury est au chômage, il touche son RSA.
Il est revenu de sa dimension parallèle.
Ouais, mais bon, il vivote, quoi, le pauvre, il a du mal à vivre. Et donc, Œil de Faucon vient le chercher pour lui confier une petite mission qui va être de récupérer Captain America,
Qui est en train de partir en vrille.
qui est en train de partir en vrille parce que on lui a fait des révélations sur son passé et sur donc un nouvel ennemi qu'il a qui s'appelle Crâne Rouge.
Et donc, c'est l'arrivée de Crâne Rouge dans l'univers Ultimate. Alors, bon, Pacheco, au dessin, on va y aller rapidement, c'est classe.
Moi, je trouve ça classe.
Voilà, Pacheco, c'est vraiment classe. Même si je le trouve un peu faible, je l'ai connu plus en forme. Moi, j'aimais bien Pacheco du début, en fait. Il avait un style un peu plus épuré, mais bon, c'est une question de goût. Ça reste quand même très très propre, très très bien foutu, très dynamique.
Bon, par contre, est-ce que tu penses que c'est Samuel Jackson qui va jouer Nick Fury dans les Avengers?
C'est probable. Hein.
C'est probable? Non.
Ensuite, moi j'ai adoré le départ, les deux premières phrases, qui, je pense, sont un cri du cœur de Mark Millar par rapport au travail de Jeff Lemire sur la série juste avant. Vas-y, dis-moi lis les deux premières phrases.
C'est pas vrai? Je m'absente 5 minutes et c'est la catastrophe?
Voilà. Ça m'a vraiment semblé d'être une petite pique dans la tête des scénaristes précédents. Es-tu d'accord? Est-ce que tu penses qu'il y a ce côté...
Je sais pas. Là-dessus, j'ai no comment. Je peux pas dire si.
Voilà, parce que les Ultimates reviennent vraiment en force. Alors, c'est pas les Ultimates, l'équipe des Ultimates qui travaille pour
Le Shield.
le Shield reste une équipe Ultimate. Là, c'est les Avengers, attention, hein, c'est les Vengeurs, quoi, à l'ancienne. C'est très bien écrit, hein, ça joue beaucoup sur des flashbacks, des allers-retours dans le temps pour nous amener les scènes choc en fin d'épisode. En plus, ce que je trouve génial, c'est que si tu regardes bien, la révélation nous a été préparée il y a déjà un moment. Ouais, le problème, c'est que je peux pas dire sans spoiler. Ouais, dans un des épisodes de Mark Millar, donc il y a quelque temps, la révélation qu'on nous fait là, on nous le dit déjà. Ouais.
J'ai
Dans un
le cerveau qui
flashback.
est en mode off et là, je suis désolé, je m'en rappelle pas.
Donc, en gros, il avait lancé une patate chaude dans un ancien épisode et aucun des scénaristes qui a suivi n'a su la saisir au vol. Donc, il a récupéré et il a fait la suite de son scénar. Quoi d'autre? Ouais, il y a deux couvertures, oui, je le dis, hein, du Avengers. Bon, bah, elles sont moyennes. J'ai pris celle que je trouvais la plus jolie, on va dire. Ça coûte aussi 4 euros. C'est aussi chez Panini Comics. Et franchement, ça s'annonce pour le mieux.
Plus intéressant, enfin, je dirais pour l'instant, des trois que j'ai lues, c'est celle qui m'a le plus.
Bah, c'est aussi la plus adulte, je dirais. Spider-Man est sympa, mais c'est un trip très ado, en fin de compte. Hein.
C'est clair.
Là, le Ultimate Avenger, on a des vraies questions un peu plus pour les grands, quoi, on va dire. Ce qui n'ôte pas la qualité du Ultimate Spider-Man. Et ben voilà, on en a fini avec ce dont on voulait parler aujourd'hui. Nous allons donc enchaîner par une interview donc de Damien et Loïc qui ont organisé le festival Game and Geek, non
Geek
Geek
and
and Music,
Music,
j'y arrive
ça fait
pas.
deux fois que tu le rates. Hein.
Ouais, je le rate à tous
Donc
les
c'est
coups.
Geek and Music. Si vous allez chercher Game and Geek, ça marchera
Ouais.
pas, hein, vous trouverez pas.
Geek and Music, de toute façon, je mettrai tous les liens sur le site. Ça a lieu donc le 29 mai prochain à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. C'est un festival qui a l'air assez intéressant et assez original. Dans le genre, sur ce modèle-là, j'ai pas vu grand-chose qui existait. Alors clairement, je vous l'annonce, hein, c'est pas des grands spécialistes de la bande dessinée, mais ils ont tenu à mettre de la bande dessinée dans leur festival, et donc je trouvais ça assez intéressant, bah, de voir avec eux pourquoi, qu'est-ce qui les intéressait là-dedans. Donc, comme d'habitude, j'ai trouvé que j'étais un super bon intervieweur parce que j'avais toujours rien préparé à l'arrache.
Toujours rien préparé à l'arrache.
Oui, je sais, mes phrases sont
Bah, oui, enfin,
absconses.
si c'était à l'arrache et que tu n'avais rien préparé.
Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, nous les écoutons et nous vous retrouvons dans quelques minutes. À bientôt.
À de suite.
Donc, je suis avec Loïc et Damien sur une terrasse de l'Estaque. Et donc, Loïc et Damien sont les organisateurs du festival Geek and Music qui aura lieu le 29 mai à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai. Bonjour.
Salut.
Salut à toi.
Donc, bah, l'idée, c'est de commencer par parler un peu de votre festival. Bon, déjà, comment vous est venue l'idée de monter ce festival? Vous êtes bien les deux seuls organisateurs. Comment vous est venue l'idée de monter ce festival qui semble un petit peu étrange de voir apparaître ça sur Marseille, en fait. On s'attend plus à voir ça sur Paris, voire un peu Lyon, mais sur Marseille, ça fait un peu étrange. Hein.
Alors en fait, Damien et moi, on s'est connus par rapport à la musique, puisqu'à la base, on travaille dans la musique. Moi, j'ai travaillé dans une salle de concert à Marseille qui s'appelle La Franchie. Damien est dans le groupe d'Afissam, un groupe de hip-hop, donc spécialité de La Franchie, le hip-hop. On s'est rencontrés et au fur et à mesure des discussions, on a vu qu'on avait plusieurs passions ensemble, et notamment le jeu vidéo. Donc ça a été la première accroche. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des discussions, on s'est vu qu'on avait d'autres points communs qui se rassemblaient toujours autour de la culture geek. Donc, parce que pour nous, la culture geek, c'est vraiment tout ce qui est l'ensemble jeux vidéo, manga, BD, jeux de rôle, tout cet univers-là, quoi. On peut pas dire que... Parce que souvent, on réduit le terme geek au terme informatique. Et c'est vrai que, bon, au fur et à mesure des forums, des discussions, des sites, tout ça, on a vu que une majorité quand même partageait le même avec nous. Le geek, c'était quelqu'un de passionné par plusieurs branches culturelles de cette culture.
C'est ça.
Qui sont donc.
Parce qu'il y a, en fait, voilà, c'est extrêmement large comme culture. Il y a énormément de, énormément de branches différentes, voilà, tout ce qui est science-fiction, jeux de rôle, jeux vidéo, manga, etc. Mais malgré ça, on retrouve souvent le même type de public, il y a toujours les mêmes codes qui tournent autour de tout ça. Donc c'est en ça justement qu'on veut défendre le fait que c'est une culture et que c'est pas seulement des loisirs à part le jeu vidéo, la BD, etc. Ça va plus loin que ça, c'est plus qu'un loisir, plus qu'un passe-temps, c'est une véritable culture. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça un festival et pas seulement juste une convention ou
un salon,
ouais, exactement. C'est justement voilà, pour mettre en avant cet aspect culturel. Et pourquoi aussi sous cette forme-là le festival? Parce qu'on a voulu justement pour cette première édition justement défendre le fait que c'est une culture et que ça englobe énormément de choses. On avait voulu faire un événement le plus généraliste possible, donc essayer de regrouper le maximum de branches de cette culture-là. Donc voilà, encore une fois, la BD et tout ce qui va autour, jeux vidéo, manga, etc.
Vous n'avez pas l'impression, enfin moi c'est vrai que ça me semble un peu le côté geek, c'est devenu super mode en fin de compte. C'est arrivé, est-ce que vous vous êtes dit que c'était dans la tendance, que vous avez plus de chances de marcher comme ça, parce que j'imagine que c'est beaucoup d'engagement de faire un festival, ou est-ce que vous êtes lancé comme ça, ça marche pas
Non, en fait, on n'a pas fait ça parce que c'est vrai, on ne peut pas le nier, c'est en train de devenir un terme plus ou moins à la mode. Après, il fallait mettre un terme sur cette culture-là, le terme s'est imposé par lui-même, justement parce qu'on en entend parler de plus en plus. Mais non, c'était pas pour coller à l'effet de mode, c'était voilà justement pour mettre un terme derrière tout ça, quoi.
Oui, on entend souvent maintenant de plus en plus de gens être nommés geek simplement parce qu'ils ont un iPhone ou un truc comme ça. Oui. Vous allez à l'encontre de ce genre de tendance, c'est vraiment réunir plus les vrais geeks, ceux qu'il était avant que soit la mode.
Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un geek c'est un passionné, donc voilà, c'est un événement qui s'adresse aux passionnés. Bien sûr, tout le monde peut y venir, bien sûr, tout le monde peut venir découvrir, mais c'est le geek, c'est vraiment un passionné. C'est pas, il suffit pas d'avoir un iPhone ou de s'intéresser un peu à ce que diffusent certains blogs qu'on est un geek, quoi.
J'ai vu la programmation est vachement variée en fait, il y a beaucoup de choses prévues. Donc notamment en musique le soir, ça a l'air vraiment de toucher de tous les côtés. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette programmation déjà musique? On reviendra un peu plus tard sur ce qui est prévu dans la journée et puis aussi le lendemain.
Alors, en fait la programmation musicale, vraiment on voulait partir sur quelque chose d'assez éclectique. Parce que justement, par musique geek, souvent c'était réduit par musique composée à partir d'ordinateurs, tout ça. Et en vérité, nous, on voulait s'inspirer plutôt des personnages, plus qu'un moyen de composition. Et c'est vrai que voilà, tous les acteurs qui vont, tous les chanteurs et groupes qui vont venir durant la soirée ont un rapport avec cette culture. Donc autant les Mocos, ceux qui font le générique de la série Nous, par exemple. Ou les rois de la Suède avec Monsieur Poulpe qui est quand même un personnage c'est quand même une icône de la culture geek à l'heure actuelle. Gérard Bass qui a présenté pendant plusieurs années Level 1 sur Game 1, donc émission de jeux vidéo. Après on a deux moods spécialisés aussi dans la musique électronique 8-bit et qui faisait partie du crew de hackers Azor. Et Meneo, pareil, avec sa musique 8-bit, chip music, voilà. Et c'est tous ces univers, donc ça se balade entre pop, rock, chansons, hip-hop, musique électronique. C'était vraiment important pour nous qu'il y ait tous ces panels-là de musique qui soient définis sous l'appellation musique geek, en vérité.
Ok. Je voulais revenir sur donc dans la journée, en gros, j'ai vu qu'il y allait avoir du jeu vidéo, il y allait avoir des dédicaces. C'est vachement varié. Comment est-ce que vous allez réussir à organiser ça de front? Vous allez y avoir des zones plus dédiées à un point ou un autre, ou bien alors c'est tout mélangé en vrac et chacun va puiser ce qu'il veut?
On a en fait la convention, pour parler de la convention, donc on met de côté le concert, bien que sur le concert il y ait quand même des quelques bornes de jeux vidéo sur lesquelles on pourra, surtout du rétro, mais voilà, pour revenir sur la convention en fait, il est divisé en deux lieux, donc il y a le hall et la salle de projection dans lequel il y aura des représentations, donc déjà tout ce qui est projection, conférence, intervention des invités, tout ça se fait dans cette salle là Et après, dans le hall, ben oui, on a différents stands de différentes animations et on essaie de les regrouper par thématique. Donc, ne serait-ce que rien que par rapport aux jeux vidéo, on a chaque association qui vient tenir un stand de jeux vidéo est plus ou moins spécialisée. Donc on a une association qui est plus spécialisée dans le rétro gaming, une autre plus dans le jeu de combat et jeu indépendant, une dans le jeu musical, une dans le jeu PC, voilà. Et après on a essayé de mettre aussi, on a classé en fait par univers tout ce qui était heroic fantasy, jeu de rôle aussi. Oui. Ils ont leur coin. Enfin voilà.
On a un côté aussi plus dédié à la musique avec une scène où il y aura quelques petits showcases, où il y aura des concours, tout ça, des jeux musicaux aussi. Oui. Ensuite, sur la partie BD, donc pourquoi cette sélection entre Cade, Luciano ou alors les geeks? Bon, les geeks, je pense que par le nom même du festival, ça, c'était presque une obligation. En plus, ils sont dans le coin, ils sont sur Aix-en-Provence, donc du coup, je pense que c'était normal de les inviter. Luciano, c'est un blogueur. En même temps, il est fan de Star Wars. C'est vraiment un truc qui est vraiment assimilé à la culture geek. Et lui, il est quand même auteur de deux BD, plus un dessin animé, donc entre les puceaux, le petit Nicolin. Là, je sais qu'il voulait s'en faire une aussi sur l'univers Star Wars à venir, très décalé.
J'ai vu le premier truc, l'apprenti Jedi, qui était très très drôle.
Voilà, après, c'est et Cade aussi. Alors, Cade, c'était important pour nous qu'on l'ait, parce qu'en fait, on est très emprunt aussi d'univers hip-hop par rapport à notre passif professionnel. Et Shango, en fait, c'est vraiment une alternative du comics. En plus, c'est un comics français, on n'en a pas beaucoup. Et en plus, qui est beaucoup attaché au rite africain, traditionnel. Tout ça. Il y a une grosse relation avec l'Afrique que je trouvais très sympa à développer sur cette première édition. Plutôt partir sur des titres plus originaux que ce qu'on pourrait retrouver sur d'autres salons BD qui vont être beaucoup plus spécialisés que nous, puisque nous l'essentiel c'est vraiment de donner un aperçu de chaque partie et de pas rentrer dans trop les détails, mais quelque part aussi montrer nos goûts principaux et nos influences sur cette première édition, quoi.
La bande dessinée, hein, on va venir un peu en particulier là-dessus. Il y a un gros pool d'auteurs, hein, dans la région. Vous avez contacté beaucoup de monde, vous saviez qui vous vouliez sur place?
C'était à la fois par, ça s'est fait à la fois par envie et à la fois par hasard, j'ai envie de dire. C'était au gré des rencontres. Davy, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment, donc bon, ça s'est fait tout seul, tout logiquement. Pour Shango, pour Cade, c'est la même chose. On a rencontré les réalisateurs Jack and Johan et lors d'une convention, et donc on a appris qu'ils étaient en relation avec lui, donc c'est tout naturellement on connaissait déjà le comics depuis un bon moment, donc c'est tout naturellement qu'on l'a invité. Voilà, on n'a pas spécialement fait de recherche, on a fait encore une fois comme disait Loïc, suivant nos goûts, suivant au gré de nos envies, sachant que si on commençait trop à se prendre la tête, de toute manière, on allait vraiment se prendre la tête, justement, parce que on pouvait pas non plus trop en mettre, malheureusement, parce que c'est pas un événement spécialisé BD. On voulait à tout prix de la BD, et il y en a, mais on pouvait pas trop développer la chose au même titre que toutes les autres branches de cette culture-là qu'on retrouve sur l'événement, quoi.
Parce qu'on n'a pas eu autant d'opportunités de le faire, mais après, l'idée, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'apporter un aperçu de chaque, et que dans une prochaine édition, on ait moyen de rentrer un peu plus en détail, qu'on dise, voilà, qu'on soit identifié sur un événement geek, et que peut-être les portes des auteurs et des maisons d'édition s'ouvrent un peu plus quand on dit, voilà, on a un petit événement, est-ce que vous voulez participer? Parce que voilà, c'est vrai, là, on avait un réseau qui était très, très jeux vidéo à la base, donc c'est vrai que c'est là que ça s'est ouvert le mieux. Mais voilà, c'est en espérant que le festival permette sur l'année prochaine de pouvoir donner un aperçu plus pointu et aussi à la fois plus vaste sur chacun des domaines, quoi. Ça, non plus rentrer trop dans les détails, puisque c'est pas le but. Il y a des salons déjà dédiés à chaque fois à chaque branche et qui le font beaucoup mieux que nous, donc voilà.
Un truc dont j'ai été surpris, c'est que je vois que vous avez invité donc l'équipe de Noobs. Il y a la BD qui vient de sortir, donc dessinée par Philippe Cardona, qui est exois. Vous l'avez contacté ou il n'est pas dispo ?
On l'a contacté, le problème c'est qu'il est au Japon actuellement. Et donc il nous a dit voilà, qu'il se serait bien senti de venir, mais que voilà, c'est pas possible. Et voilà, l'année prochaine, on espère. Mais bien sûr, il fait partie des personnes qu'on a contactées en premier. Quoi.
Ah, le salaud au Japon, bravo. Donc, connaissant un peu de ses goûts, je crois qu'il doit bien s'éclater.
Ah, carrément, carrément.
Ok, est-ce que vous voulez rajouter un truc un peu sur le festival ? Est-ce qu'il y a vraiment un point fort que vous voulez mettre en avant ? Bon, je vois que c'est vraiment, vous êtes deux à organiser ça, ça a l'air assez énorme. J'imagine que, déjà, est-ce que vous avez un modèle de festival ? Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça, qui vous a inspiré ? Ou est-ce que c'est votre idée et vous allez mettre un copyright bientôt ?
Limite, oui. Presque, oui. Parce que vraiment, comme ça, un événement aussi généraliste, qui plus est dans le sud, bon, ça n'existe pas, c'est clair. Mais après, voilà, on sait... forcément, on retrouve un peu de ce qu'on retrouve dans d'autres conventions. Mais disons que... tout en même temps, sur un seul événement, personnellement, on n'a jamais vu ça. Quoi.
Parce que l'idée, c'était vraiment de proposer ça à une vraie convention et une vraie soirée concert. Pas penser ça comme on a une convention, un lieu, on fait quelques exposants et en même temps on tire une scène dans un coin et ça joue quoi. Là l'idée c'était vraiment de se passer une belle journée donc à déambuler entre les stands, à profiter un peu des projections et le soir finir sur un point d'orgue vraiment dans une soirée concert pour se défouler voilà, je pensais que c'était intéressant comme ça et c'est vrai qu'on s'est inspiré un peu de tous les modèles qu'on a pu connaître autant en convention qu'en festival musical pour dire on fait un événement hybride avec tout ça quoi.
Il y a un point qui m'a particulièrement marqué, c'est le dimanche vous prévoyez en fait de faire une journée plus découverte pour attirer les non-geeks pour qu'ils découvrent cette culture sachent ce qu'il est. Vous avez prévu des animations un peu particulières pour essayer d'amener les familles, regrouper un peu le tout public, pas forcément justement les passionnés qui sont la cible principale de votre festival sur ce dimanche.
Justement, le dimanche, en fait, on s'est fait en partenariat sur une proposition à la Belle Fête de Mai, donc qui est une fête populaire du quartier de la Belle de Mai. Donc nous, on avait les deux festivals qui se chevauchaient à ce moment-là. L'idée c'était qu'on ne partage pas le lieu ensemble en s'ignorant quoi. On a dit bon, on va essayer de trouver une proposition qui soit adéquate sur les deux et donc on trouvait intéressant de proposer une initiation vraiment à un plus grand public, une approche plus facile que vraiment la convention qui à la base se réserve d'abord à des initiés, mais maintenant c'est vrai qu'on essaie de faire un événement grand public et donc le dimanche voilà c'est quand même une fête populaire et ça permet à ces gens de rentrer d'ouvrir une sorte de porte ouverte à un certain univers et de profiter, mais ça reste quand même quelques petites animations dans un lieu précis, confiné. Ce ne sera pas le même lieu, c'est pas le même mode d'expo.
Ça n'a rien à voir en termes de...
Rien du tout, ouais.
En termes de capacité déjà, et puis en termes d'animation, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Maintenant, on met plus l'accent sur les projections le dimanche. On va projeter une sélection des émissions de la chaîne No Life qui regroupe un peu tout ce qu'on peut retrouver dans cette culture-là, qui peut donner un aperçu. Il y aura quand même quelques jeux vidéo en libre accès et une petite initiation au jeu de rôle. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi une fresque graffiti, ouais. Thématique aux jeux vidéo ou à la culture geek en général, on verra encore comment ça se passera.
Ça faisait vraiment partie de notre réseau aussi, le graffiti, et on trouvait intéressant de l'amener sur cette proposition du dimanche où c'est quand même en majorité une fête en plein air et donc du coup tout le monde déambule sur en même temps pour la Belle Fête de Mai, parce qu'il y a d'autres animations de la Belle Fête de Mai en même temps. On trouvait intéressant justement de faire une fresque dédiée parce que voilà, quand on voit une fresque, on se met devant, on se dit c'est quoi, on voit comment les gens y bossent, tout ça.
Plus que c'est en extérieur.
Et puis on avait déjà vu d'autres pièces où il y avait quelques personnages, des Bob l'éponge par là, des personnages de comics par-ci. Et du coup, on trouvait sympa de vraiment faire cette fois une fresque dédiée à ça, qu'on puisse garder un beau souvenir visuel et en même temps éphémère sur cette journée-là. Quoi.
Ok, Ben, merci déjà pour cette découverte qui donne bien envie de venir faire une balade au festival. Surtout que jeux de rôle, bande dessinée, jeux vidéo, c'est un peu les trucs qui me plaisent. On va venir un peu plus sur la BD, donc un peu plus le cœur de l'émission. Déjà, est-ce que vous êtes des gros lecteurs de BD ou est-ce qu'il y en a un de vous qui l'est plus que l'autre?
Moi, personnellement, pas trop. C'est pas parce que ça me plaît pas ou que je suis pas forcément attiré, bien au contraire, c'est juste par manque de temps. Disons qu'il a fallu que je choisisse entre les jeux vidéo et la BD, bon.
C'est deux loisirs coûteux, hein. Ça c'est déjà financièrement.
Et puis qui prennent énormément de temps, donc bon, j'ai
chronophage.
Chronophage, exactement, ouais. C'est le terme. Et donc bon, j'ai dû choisir un jeu vidéo. Après, j'en lis de temps en temps, mais on peut pas dire que je sois. Enfin, j'oserais pas dire que je suis vraiment calé sur le sujet, bien que ça m'intéresse énormément, que ça nous intéresse énormément à tous les deux. Mais voilà. Après, si je devrais juste parler d'un album, enfin, d'un coup de cœur que j'ai eu récemment. Je sais pas si on peut qualifier ça de BD ou plutôt de comics ou de manga, disons, enfin, on dirait que c'est croisement des trois, ça serait Mota Fukaz. Visuellement ça m'a vraiment mis une claque et je kiffe à mort cet album là.
Oui, puis en plus c'est vrai que c'est bien dans la culture hip hop
aussi, c'est vrai,
ouais. Chez Ankama ils ont pas mal de bandes dessinées qui sont liées à toutes ces cultures, enfin je dirais ces sous-cultures entre guillemets, hein. Ouais. Pas pour dénigrer, mais le hip-hop, les trucs rock avec des bazars, etc.
C'est ça, ouais.
Et toi, t'es plus BD que ton collègue ?
Alors moi, j'ai une grosse enfance BD. Alors j'étais vraiment fan des... Bon, je sais que peut-être que ça va se foutre de ma gueule, mais pour moi, Boule et Bill, c'est un classique. Voilà, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. J'avais toute la collection quand j'étais gamin. Après, j'étais vraiment fan des Gaston. Alors, un truc qui se rapproche bien de la culture geek, c'était Léonard aussi. C'est vraiment une BD qui m'a fait triper. Les deux auteurs, Turk et De Groot, ça a été vraiment des gars qui m'ont fait délirer. Je passais des heures à relire les bouquins, et vraiment, c'était le pied, quoi. Et ouais, d'autres valeurs classiques comme Tintin. Il y a eu un peu... qu'est-ce que je me suis fait aussi en BD? Ah oui, il y a eu Soda. Soda, ça a été vraiment aussi... c'était vraiment un coup de cœur découverte en bibliothèque. C'était assez dur quand j'étais gamin pour arriver à tomber dessus. Après, ça, c'est un peu plus facilement distribué. Mais Soda, c'est vraiment les univers urbains et ces esprits un peu old school, soul à la Tarantino, tout ça. C'est vraiment des trucs qui m'ont fait... qui m'ont fait vraiment délirer, qui me font toujours délirer, en fait, c'est un peu mes influences, et c'est vrai que Soda, ça m'a pas le marqué. Et récemment, découverte du manga, parce que j'ai dit quand même, ça fait des années que je vois déjà des gens qui sont passionnés dans ça, tout ça, il faudrait quand même que je m'y jette dedans. Donc j'ai pris quelques premiers tomes, et voilà, j'ai commencé une bonne collection maintenant, depuis quelques mois, et je les lis en deux-deux, je les mange en deux-deux, voilà, c'est... C'est vraiment aussi un truc qui commence vraiment à me prendre à fond, quoi.
Niveau manga, il y a un genre particulier dans le manga, parce que le manga, il y a plein de sous-genres, hein, quand même, où tu lis un peu de tout. T'as un coup de cœur, quelque chose qui t'a bien plu dans le manga récemment ?
Le yaoi, non ?
Non, en fait, j'ai voulu commencer par des valeurs... Des
valeurs sûres ?
Pas des valeurs sûres, mais c'est vrai que peut-être les plus faciles, c'est les shonen. Et tout ce qui est l'école de Jump, tout ça.
C'est long.
C'est long parce qu'il y a beaucoup de tomes. Mais voilà, je pensais que c'était intéressant quand même d'attaquer par ça. Et par contre, il y a un truc vraiment qui me manque cruellement dans ma culture, parce que c'est le peu d'images que j'ai vues, tout ça, qui me donne vraiment envie, c'est Akira. C'est vraiment un truc, je me dis, le jour où je vais rentrer dedans, je sais que je vais pas en ressortir. Et je crois que Damien, toi tu l'aimes.
Moi, c'est plus l'animé, en fait. L'animé, ouais. Mais bon, c'est vrai que ça, je l'avais vu il y a très longtemps, quoi, quand j'étais petit, et ça m'a mis une claque, et ça m'a marqué, ça m'a même inspiré pour la suite, pour différentes choses. C'est vrai qu'Akira, c'est un sacré classique. Quoi.
Puis il y a la musique en plus d'Akira, qui est quand même la musique assez exceptionnelle.
Ouais, carrément.
Oui, puis je vous recommande la BD, parce que ça va vraiment au-delà du dessin animé. Le dessin animé, en gros, c'est 3 tomes. Hein.
Ouais, ok, d'accord.
Sachant qu'il y en a 13 ou 14, je crois qu'il y en a 13, et le 14e, c'est un hors-série avec que des images, etc.
Ok.
D'ailleurs, en parlant d'animé, toute la génération manga, je dirais Club Dorothée, que ce soit Nicky Larson, City Hunter, Dragon Ball, etc., C'est le genre de trucs qui ont bercé votre enfance, vous êtes encore dedans?
Carrément, non seulement ça a bercé mon enfance, mais en plus oui, je suis carrément encore dedans. Ça, il y a un mois encore, j'ai encore failli m'acheter l'intégrale de City Hunter, la mallette là, avec tous les DVD dedans. Ouais, non, City Hunter, Dragon Ball Z, énormément. Ken le survivant.
Dans les animés cultes quand même, qu'on a en commun et qui ne reviennent pas souvent, c'est les Samurai Pizza 4. Ça, ouais. C'est vraiment un truc qui
c'est
nous branche à fond.
C'est vrai.
Connaissant la censure qu'il y a eu sur tous les animés en France, qui est assez phénoménale, hein, je pense ouais. Particulièrement à du Nicky Larson qui n'a rien à voir. Moi, je suis la BD un petit peu. Vous n'avez jamais voulu vous lancer, parce que je ne sais pas si les intégrales qui sortent maintenant passent cette censure en anime. Est-ce que vous avez jamais voulu vous lancer vers les BD pour voir ces passages qui sont complètement transformés dans le dessin animé?
Encore une fois, voulu, oui, l'envie est là. Après, c'est une histoire de temps, mais c'est une grosse frustration en fait, parce que il y a énormément de choses qu'on a envie de auxquelles on a envie de s'y mettre, mais voilà, encore une fois, c'est le temps. Mais c'est vrai que c'est deux choses totalement différentes, mais. Avec le recul, c'est vrai que sur le moment, à l'époque, c'était une véritable honte. Mais avec le recul, ça a finalement donné des choses pas mal. Je pense à Ken le survivant, par exemple, où les deux versions sont super, parce que en version française, on entend des choses, on voit des choses. Maintenant, avec le recul, en regardant la version française, c'est à tomber par terre, quoi, juste.
L'école au couteau de cuisine, et le manteau de vison.
Bien sûr, ouais.
Couteau de salle à manger.
Couteau de salle à manger.
Ok. La BD américaine, vous connaissez un peu. Je sais qu'il y a pas mal de BD, justement, je reviens sur la culture hip-hop, autour de la culture hip-hop. Il y a eu une BD sur Tupac il n'y a pas longtemps. Je ne retrouve plus leur nom. Le Wu-Tang Clan qui a eu pas mal de BD dessus. Ils ont toujours été à fond là-dessus. Vous avez un peu regardé ce qui se faisait, pas forcément côté culture hip-hop, hein, mais autour.
En comics, oui, on était au courant, on a suivi. Moi personnellement, j'ai pas particulièrement lu. À part, j'ai eu la BD d'Ayam. C'était pas si extraordinaire que ça. Même si je suis fan du groupe, bon, c'est deux choses totalement différentes en termes de qualité. Sinon, ouais, non. Enfin, je m'y suis pas mis, quoi, personnellement.
Non, moi non plus. C'est vrai que c'est vraiment des univers graphiques qui m'ont toujours énormément plu, parce que je trouve qu'en peu d'images, ils arrivent vraiment à montrer pas mal d'émotions et à bien résumer tout ça. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a une époque, en fait, où ça marchait bien aux États-Unis, et que nous, c'était quand même assez difficile d'accès, d'en trouver.
Ouais, c'est ça.
Par rapport à un marché manga qui était en pleine expansion dans les années 90, tout ça, le comics, parce que nous on est de génération 80, et voilà, c'est vrai que le comics était un peu moins facile d'accès pour nous à l'époque, qui était beaucoup plus jeune, quoi.
À part une vieille collection des X-Men que j'ai hérité quand j'étais jeune, sinon ouais, j'ai pas lu plus de comics que ça.
Et donc, nous reprenons à l'intérieur de la voiture, que nous avons été salement virés du bar où nous étions. Notez-le à l'Estac, on ne peut pas rester trop tard. Surtout hors saison, il faut croire. Donc, je revenais sur les jeux vidéo. Donc, le jeu Street Fighter, par exemple, il y a eu pas mal de BD qui sont sortis. On les a même trouvés en France. Vous avez vu ce que ça donnait? Vous en avez pensé quelque chose?
Moi, je trouve souvent que ce genre de report, c'est toujours un échec, parce que dans chaque fois on essaye de ce mode du multiplateforme, multi-support, où on essaye de dire bon, on a une licence, on va en faire un film, on va en faire un jeu vidéo, on va en faire une BD, on va en faire des tabliers, des mugs, voilà. c'est vrai qu'à chaque fois toute cette façon de faire des sortes de produits dérivés entre guillemets, ça la majorité du temps ça conclut à des échecs, quoi. Il y a de très très rares licences qui peuvent se dire nous on a fait un film et en même temps un jeu vidéo et une BD de qualité, ou... c'est jamais tout en même temps, en fait. C'est peut-être un ou l'autre qui marche, mais pas tout, quoi.
Ouais, tu crois que quelque chose doit rester sur son support et éviter d'en sortir, parce qu'il y a de chances que ce soit l'échec, ou est-ce que ce serait plutôt la démarche qui est un peu trop commerciale et qui amène l'échec derrière?
C'est vrai que ça dépend beaucoup de la démarche. Si c'est fait intelligemment, dans le sens où ça s'y prête, On peut le faire. Il y a des certains univers qui se prêtent plus facilement à certains supports.
Je pense surtout que le problème, ça vient du fait que généralement les adaptations qui sont faites ne sont pas faites par les mêmes personnes qui ont créé l'histoire ou la licence sur le support original. Et donc c'est souvent ça, je pense, le qui fait que c'est rarement réussi. Voilà.
Alors je vais vous poser la question que j'essaie de poser à chaque interview. Est-ce qu'il y a dans toutes vos lectures BD de jeunesse, etc., une BD que vous lisez en cachette dans vos toilettes tellement vous avez honte?
Alors la question piège.
En dehors des yaoi.
Oh, toujours les yaoi, c'est une mode. Non. Allez, on va faire la question de dossier. On va dire que quand j'étais gamin, je reviens à Boule et Bill. C'était ma valeur sûre et c'est. Non, en fait, j'ai pas honte, je revendique. C'était. Je peux la sortir tout le temps, ça. Là, je la connais presque par cœur. Je connais tous les tomes par cœur. Je l'assume. Donc c'est pas une honte. J'ai pas de honte envers une BD ou quoi en particulier.
Et toi, Damien?
J'ai un comics en tête, mais je me rappelle plus du nom. Et je cherche depuis tout à l'heure, je trouve plus. En tout cas, ouais, je l'ai toujours. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps. Et en fait, les dessins sont pas top. L'histoire est à chier. Mais les filles sont très peu habillées en fait dedans. du coup, ouais, je l'ai maté plusieurs fois, quoi.
J'avais pas osé parce que moi, au niveau filles dénudées, j'étais plus attiré par l'univers de Thorgal, par exemple, qui était plus sympa au niveau BD, beaucoup plus classieux quand même. Mais non, j'ai vraiment trouvé une BD en fait à laquelle j'aurais honte. C'est la BD de Jean-Marie Billard. J'espère qu'on se croisera pas un jour.
Ouais, moi, on m'a offert la BD de Elise et Moon, des petites annonces. Mais je l'ai jamais ouverte.
Même par curiosité.
Enfin oui, vite fait, devant la personne qui me l'a offerte, mais voilà.
Ok. Alors j'ai vu un truc qui est revenu beaucoup. Hein. Je pense que j'ai peut-être trouvé une définition du geek. Est-ce que vous pensez qu'un geek, c'est un gars qui aime tellement de choses qu'il a le temps de rien faire?
Ça peut être résumé comme ça. Hein. Ça peut être résumé comme ça. C'est pour ça qu'on dit souvent peut-être que les geeks ne sortent pas. Ou qui sortent juste pour aller à Geek & Music.
Oui, ouais, c'est vrai que pour y a pas trop d'occasions qui poussent le geek à sortir de chez lui, parce que souvent il essaye d'avancer sa spécialité, sa collection, son XP, voilà, c'est à chaque fois il essaye de s'améliorer et il pense pas après à profiter vraiment de lui-même et pouvoir sortir. Quoi.
Et pourtant, le geek a besoin de rencontrer des gens pour échanger sa passion et en demande de ça.
Oui, des sites comme Copine de Geek le prouvent.
Ouais. Ok, bah merci, j'en ai fini avec les questions. Vous auriez un petit mot de la fin, quelque chose que vous avez envie de rajouter pour finir ce podcast?
Juste pour ajouter sur le festival, rappeler que c'est le samedi 29 mai, que c'est à la Friche de la Belle de Mai, et surtout indiquer aux auditeurs que toutes les informations se trouvent sur www.geekandmusic.com.
Et j'aimerais terminer quand même en te remerciant.
Oui, bien sûr, ça venait après.
Et remercier également ce progrès technologique qui est Twitter, qui nous a permis de nous rencontrer entre passionnés. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup. On se revoit le 29 mai. Enfin, si j'arrive à vous croiser entre deux courses pour régler les problèmes qu'il y aura dans tous les sens. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt. Ciao.
À bientôt.
À bientôt.
Donc, j'espère que cette interview vous aura intéressé. Quoi qu'il en soit, allez faire un tour à ce festival Game and Geek and Music and je ne sais plus quoi. Allez, Geek and Music, je le fais pour de vrai.
Pour les Marseillais et ceux qui sont dans l'entourage, hein.
Oui, voilà.
Bon. Parce que si vous êtes à Lille, ça va être compliqué quand même juste de descendre pour ça.
Oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, ça a l'air en tout cas très sympathique. Tout le programme est sur leur site depuis peu de temps. Et nous enchaînons maintenant avec notre petite rubrique online. Alors, sur la rubrique online, nous allons parler de la bande dessinée la mieux dessinée du monde. Nous allons parler de Bob le Cowboy. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bob le Cowboy est une série qui est issue d'une des nombreuses animations que le journal de Spirou fait régulièrement dans ses pages.
Il y a quelques années, en gros, dans la série Le Boss, il s'est amusé à créer un personnage qui s'appelait Tokar, qui était un super mauvais dessinateur, et qui ne voulait pas embaucher. Et un jour, la maman de Tokar étant malade, ils se sont décidés à passer les planches de Tokar pour faire plaisir à la maman qui allait mourir. Et c'était super moche, c'était super débile, mais qu'est-ce que je trouvais ça super drôle. J'ai appris... Alors, là, ce qui est super génial, c'est que pendant que tu écoutes ton répondeur, on l'entend.
Non.
Si.
Non, mais t'as des micros qui sont trop forts.
Ouais, ouais. Donc, je disais, j'ai appris qu'en fait, en suivant le blog de Fabien Vellman, que c'était Fabien Vellman qui faisait les dessins et les scénarios de Bob le Cowboy. Et il a commencé à se dire, tiens, je vais commencer à les rediffuser sur mon blog, tous, parce que c'était débile, c'était marrant. Et puis bon, voilà. Bon, Fabien Vellman n'est sûrement pas un dessinateur.
Bien que... oh. Oui, mais je veux dire, dans le style, ça passe.
Dans le style. Les personnages, quand ils font leur super sourire à la fin, en montrant les deux pouces, en levant les pouces pour faire genre trop content, c'est bien. Et Fabien Vellman, donc, qui est très engagé à l'heure actuelle dans tout le combat pour la gestion des droits au numérique, a décidé de réutiliser Bob le Cowboy. Apparemment, il dessine ça pendant les réunions du syndicat de la BD. Pour un peu donner son point de vue et montrer à quel point les éditeurs essayeraient un petit peu, j'aurais tendance à dire essayent, je serais plutôt du côté des auteurs à ce niveau-là, d'enfler un petit peu les auteurs avec la gestion des droits sur la diffusion numérique.
C'est peut-être pas d'enfler, c'est que simplement les mecs c'est des commerciaux et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de faire un maximum de thunes.
Au détriment des auteurs, pour le coup.
Ben, c'est une négociation, je veux dire, voilà. Si les auteurs disent rien, ils vont se faire plein de thunes, si les auteurs marronnent un peu, ben, ils feront un peu moins de thunes et les auteurs un peu plus.
Bon, donc c'est en pleine négociation, c'est un petit peu la course à ce niveau-là. On peut retrouver ça sur le blog de Fabien Vellman, il remet des anciennes et puis ses nouvelles, histoires de Bob le Cowboy. Je vous recommande à lire parce que même si, bien sûr, le point de vue est très orienté, arrête de manger le micro. Je disais donc, même si le point de vue est très orienté, c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte d'un combat qui, à l'heure actuelle, je pense, est assez important parce que la BD numérique va vraiment se développer, je pense. Et il faut que les auteurs défendent leur beefsteak. On est exactement dans la même situation que la grève des scénaristes à Hollywood il y a 2 ans. C'est exactement la même chose. Donc, on en a fini pour aujourd'hui. Je voulais finir en remerciant Comic City qui ont parlé de nous en bien et qui nous ont emmené un nombre de visiteurs sur le site assez phénoménal. Vraiment, merci beaucoup. En plus, j'aime beaucoup ce que vous faites, même si je vous l'avoue, je ne vous écoute pas totalement en entier. Donc, Comic City est un podcast audio sur les comics, mais alors, nous, on fait du pipi de chat à côté. Ils lisent les comics tous.
Donc nous, on est amateurs et eux, ils sont pros, quoi.
Voilà. Ils lisent tous les comics et franchement, ils ont des références de malades. Alors que nous, on va survoler le recueil de comics. Eux, chaque épisode, ils vont l'analyser, dire ce qui se passe dedans, comment ça fonctionne, etc. C'est super pointu, super carré. Je le recommande plus aux amateurs de comics à la base. Les autres, je pense pas que ce soit vraiment le podcast idéal pour la découverte. Hein. Mais franchement, c'est très bien foutu. Merci en tout cas à vous d'avoir parlé de nous en bien. Je vais essayer un de ces quatre de faire un petit sujet sur les podcasts BD qui existent, qu'on peut trouver actuellement, un peu tous ceux qui se font.
Oui, les podcasts BD, il n'y a que nous en fait.
En amateur, il y a Comic City et nous.
Voilà, donc du coup,
tu as parlé un peu des pros, il y en a des. Voilà. Bon.
Tu parles que de nous, c'est tout.
Ouais, mais de toute façon, si les gens nous écoutent, c'est pas la peine qu'on parle de nous.
Merde, c'est ça.
Voilà, je voulais aussi signaler que je suis un homme heureux. Ma libraire préférée a retrouvé du travail très simplement en ouvrant sa propre librairie sur Aix, Aix-en-Provence. Ça s'appelle La Bédérie. C'est très sympathique, c'est tout neuf. Franchement, moi, c'est là que j'ai ma dose régulière. On signale qu'il y avait quand même une autre librairie spécialisée sur Aix qui s'appelle La Licorne, à laquelle je n'allais pas. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je n'y allais pas. Sans doute une fidélité, une grande déception de la fermeture de la librairie où j'allais avant.
Donc c'est juste une question de contact avec les gens. quand tu connais quelqu'un, il connaît un peu tes goûts, je discute, voilà.
Ouais, là, elle m'a montré un artbook de Dave McKean. Ah, je l'ai. Donc voilà, très sympathique, je vous recommande, c'est tout neuf, c'est rue des Cordeliers.
Ouais, juste à côté de la mairie d'Aix.
Voilà, Aix-en-Provence. C'est de la pub totalement gratos, mais on sait. Avec tous les sous que je leur donne, en plus je leur fais de la pub, franchement, qu'est-ce que je suis un mec sympa. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre, vous pouvez avoir toutes les infos sur le blog, blog.jeudepied.org. Vous pouvez me suivre sur Twitter, OneAPied. Vous pouvez nous aimer, même si on ne dit plus nous aimer, sur Facebook. C'est OneAClub en fait, facebook.com/OneAClub.
On dit plus j'aime ça et j'aime
non,
pas ça.
Non, on dit plus j'aime. On dit j'aime, mais on n'est plus fan. Voilà, c'est ça. Ah oui, on n'est plus fan, voilà, on aime maintenant.
C'est j'aime, j'aime pas.
Voilà, non, c'est même plus j'aime pas, parce que sur Facebook, tu n'aimes pas. C'est... Tu peux pas dire que t'aimes pas, tu peux que aimer sur Facebook.
Ah, donc, ouais, ça peut. Oui.
Bon. Merci de nous avoir écoutés. À donc un jour, avec une émission un peu riche, avec. Quelques très très grandes choses. On a un peu de retard sur l'actualité, quoi qu'il en
la
soit.
La fin d'une série.
Voilà, on a un peu de retard sur l'actualité. On va essayer de se rattraper petit à petit, mais ça devient un peu difficile. Je sais même pas comment on va faire pendant nos vacances.
Mais on sera plus présent dans les vacances.
Ouais, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, on fera une émission tous les 3 jours. Ouh. Non. Les roulements d'œil vers le haut en podcast audio, ça marche super bien. Merci à vous, à bientôt et dans 15 jours.
Ciao. À bientôt dans 15 jours.